Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on va être un peu moins dans la joie, mais ce sont des thèmes que nous devons aussi aborder. Ce sont des thèmes qui font partie de la vie. Donc je vous invite aujourd'hui à réfléchir à comment vous présenter la question de la mort avec vos enfants. J'étais enseignante en maternelle pendant 22 ans. J'ai donc abordé tous les sujets nécessaires au programme scolaire et puis aussi d'autres sujets qui arrivent avec les commentaires des enfants, avec ce qui se passe dans leur vie perso ou ce qui se passe au travers d'un album, ce qui se passe dans la vraie vie en dehors de l'école. Parce que dans les programmes scolaires, ce n'est pas forcément un thème qui est prévu, qui est quantifié, qui est doté, mais c'est un thème qui va, en général, arriver à un moment de l'année parce que les circonstances familiales vont avoir une ligne qui va croiser la vie de ces enfants en classe. Donc ce sont des choses que les enfants ont déjà vécues, mais ça n'a pas toujours été verbalisé. Donc on va poser quelques jalons aujourd'hui. Comment faites-vous, vous, quand vous êtes confronté à cette question-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez été confronté à ce thème? Je vais vous raconter quelques anecdotes que j'ai vécues en classe. Notamment, je vais vous parler d'un petit garçon qui s'appelait Kylian et qui a beaucoup marqué mon rapport à la mort par rapport aux enfants. Donc, la question de la mort, elle va se poser de toute façon dans la vie de l'enfant, que je sois au courant ou pas au courant. Et ce qui était parfois délicat, c'est de voir le comportement de l'élève changer au cours de la classe et de ne pas savoir ce qui s'est passé. Le premier truc que je vais poser ici, c'est que si ça vous arrive, s'il y a quelque chose de ce genre-là qui vous arrive à la maison, que vous soyez personnellement touché ou pas, c'est d'informer la figure d'attachement secondaire, la maîtresse, la responsable de crèche, peut-être l'animatrice de centre de loisirs, qu'en ce moment, c'est une période un peu délicate et qu'en ce moment, il y a une remise en question, des questions existentielles, hein, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, et que les enfants tout petits sont confrontés à la notion de sens de la vie. Au début, ils sont très auto-centrés, les enfants, ils ne pensent qu'à eux, ils ne font que ce qu'ils ont envie, et puis petit à petit, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le pouvoir absolu sur les choses extérieures, que le ballon ne répond pas à son désir, que la petite sœur ne répond pas à son envie. Et là, se crée un principe de réalité, on en parlait la semaine dernière, et se crée aussi l'idée qu'on ne va pas pouvoir contrôler ce qui arrive en dehors de nous. Et parfois, on ne peut pas non plus contrôler son corps, ni contrôler ses émotions, ni contrôler ce qu'on veut faire passer comme message à papa, à maman, à la petite sœur, à la maîtresse. Il y a une impuissance qui va arriver très tôt dans la vie de l'enfant, parce qu'il s'agit aussi un peu de frustration. On n'est pas tout puissant, on ne peut pas tout contrôler. Et pour en revenir au thème d'aujourd'hui, parce que vous voyez à quel point c'est lié, le fait que l'enfant ne puisse pas contrôler le côté vivant de quelque chose, ça va sortir de sa capacité de compréhension. Quand il va faire sa première tour et qu'il va voir que sa tour s'effondre, alors qu'il n'avait pas décidé que sa tour s'effondre, il va se sentir impuissant. Mais quand on va parler de quelque chose qui dépasse l'entendement pour lui, hein, de perdre son grand-père, de perdre son chien, là, ça va dépasser l'entendement. C'est trop gros à appréhender. C'est trop compliqué pour lui de comprendre ce qu'il se passe parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce qu'il envisageait. Ce n'était pas son désir et son envie. Donc déjà, ce principe de réalité, on y est confronté, nous, en tant qu'adultes. Mais là, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de faire la modélisation. La modélisation, c'est comment on va incarner la résolution et la régulation de notre tristesse et de notre impuissance pour que l'enfant, à son tour, puisse dépasser cette tristesse, puisse dépasser cette impuissance et qu'on lui transmette que cette valeur qu'on avait de lien, de connexion, de souvenir, elle est réelle, mais que ça ne veut pas dire qu'on peut contrôler le monde extérieur. Cette notion de frustration, cette notion d'impuissance, on va les revisiter avec vos souvenirs à vous, vos situations à vous, si vous le souhaitez. Alors, je vais commencer par une petite chose facile. Depuis que mes enfants sont tout petits, et depuis que mes élèves sont tout petits, parce que j'avais eu beaucoup d'élèves de 2 ans, on parle de la mort en tant que cycle naturel. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez voir que vous avez des fleurs dans la classe. Au lieu de jeter le bouquet quand les fleurs sont mortes, vous attendez que les enfants soient là, que votre fils soit là, que votre nièce soit là, en lui disant « Ah bah regarde dans quel état est la fleur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle est aussi jolie, ouverte qu'avant? Est-ce qu'elle sent pareil? Comment tu la regardes ?» On va partir des faits, on va partir de l'observation, on va partir de l'état de description. Quand tu vois cette fleur, est-ce qu'on la garde encore une journée ou est-ce qu'on va la jeter? Et passer par une fleur, c'est plus facile, évidemment, que d'attaquer le sujet du grand-père qui est à l'hôpital très malade. On ne va pas s'attaquer tout de suite à la question de la maladie et du grand-père. Mais ça va être des jalons, ça va être des étapes, des points d'étape dans la vie et dans la construction mentale de ce que c'est que la mort, de passer par la fleur qui est fanée, la fleur qui est morte parce qu'elle est coupée. La fleur qui reste dans le jardin, elle continue à pousser, à grandir, mais elle finira aussi par faner et par mourir. Passer par le cycle des plantes, passer par le cycle du vivant, il y a un domaine de vie dans la scolarité qui s'appelle le monde du vivant, qu'on part de là pour faire des analogies petit à petit avec ce qu'on vit en tant qu'humain. La plante, ensuite la deuxième étape c'est un animal auquel il n'est pas attaché. Nous la première fois avec Siana, donc Siana avait 3 ans, la première fois qu'on a vu un escargot écrasé sur le trottoir, je me suis dit c'est une bonne opportunité d'expliciter ça. J'avais pas décidé ce jour-là de lui parler de la mort, mais ça s'est présenté comme ça. Et lundi matin, quand on est reparti à l'école, on a vu pareil un hérisson écrasé sur le trottoir. Ce sont des situations, des opportunités, c'est un peu triste à dire, mais ce sont des opportunités qui nous permettent de voir que ce sujet, il est là. Il est là au quotidien si on veut s'en emparer. C'est une sorte de prévention, c'est une sorte de poser des mots, de mettre un cadre autour de ce mot de malade, mort, vivant, en mauvais état, défaillant, défectueux. Tout ça, ce sont des mots qu'on peut utiliser pour construire la notion qui est très subjective. C'est une notion qui est compliquée pour un enfant de voir qu'un objet, de voir qu'un être vivant n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Je vous finis l'histoire de l'escargot parce que peut-être que ça pourra aussi vous donner des pistes. C'est que quand on regardait les escargots sous la pluie, on regardait les escargots vivants. Donc elle avait déjà compris que les escargots vivants avancent, ont les cornes sorties, ont l'air en bonne santé, la coquille est complète et ronde et tout ça. Et ce jour où on a vu l'escargot écrasé, j'ai dit « Tiens, regarde, comment tu le trouves cet escargot ?» Et là, j'ai laissé un silence. J'ai laissé l'observation se dérouler. J'ai laissé sa conscience et sa compréhension du monde s'ouvrir comme un dossier sur son ordinateur. Donc à ce moment-là, elle a regardé l'escargot écrasé. Donc il s'est passé des choses dans sa tête que je ne peux pas définir, que je ne peux pas connaître. Je pense qu'elle a mis en réseau ce qu'elle voyait d'habitude d'un escargot en bonne santé qui ne correspondait pas à l'image qu'elle avait en face d'elle. L'escargot qu'elle avait en face d'elle n'était plus en état habituel, n'était plus dans la même définition, dans la même description. Et à un moment, elle m'a regardé, elle dit « En fait, on dirait un peu de la compote d'escargot. Les enfants sont formidables, ils ont de l'humour, ils dépassent un peu l'imaginaire et ce qu'on en attendait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle de compote d'escargot. » Ça m'a fait rire sur le moment. Je lui ai dit « En tout cas, je crois qu'il ne pourra plus avancer. » Elle m'a regardé, elle dit « Non, là, il ne pourra plus avancer, il ne pourra plus manger, etc. » Poser des descriptions en disant « L'état vivant, ça nous permet de marcher, de bouger, de parler, d'avoir des enfants, de grandir, de rigoler. » Et il y a un autre état qui existe où là, on ne peut plus bouger, on ne peut plus avancer, on ne peut plus parler, on ne peut plus avoir de bébé. C'est un état de mort, c'est un état de décès. J'insiste sur le mot « mort », j'insiste sur le mot « décès ». Suivant l'âge de votre enfant, quand il va être concerné par ça, il est important de dire les vrais mots. Parce que ces vrais mots font partie du vocabulaire réel. de ne pas dire il est parti, il a disparu. Dans le cas de l'escargot, de toute façon, il était en face d'elle. Mais si ça arrive à votre grande-tante et que vous dites elle est partie, dans la tête d'un enfant qui lit des livres où les enfants partent à l'école, partent en voyage, partie ne veut pas dire mort. Donc ce choix de mots va être important si vous voulez que le concept soit bien détaillé, soit bien concret dans la tête d'un jeune enfant entre 2 et 5 ans. Sachant qu'avant 5 ans, le caractère irréversible de la mort est très compliqué à appréhender. L'enfant, il ne va pas vraiment comprendre qu'il ne reviendra jamais. Là, avec l'escargot, c'est plus facile parce qu'il y a eu un avant, je sais ce qu'un escargot vivant veut dire, et un après, je constate que l'escargot, là, il ne peut plus avancer, il est écrabouillé. C'est de la compote d'escargot. Donc, partir du factuel, partir de la plante, du cycle des graines, des fleurs, des pousses, partir de l'escargot que vous voyez dans le jardin auquel votre enfant n'est pas attaché affectivement. Parce que moi, je me souviens, mon grand-père avait des lapins et ma sœur ne s'en est pas remise que le lapin que mon grand-père avait élevé, il est fini par le cuisiner. Donc, ma sœur n'a jamais voulu manger de lapin à cause de cet événement-là et de ce souvenir-là. C'était trop compliqué de s'attacher au lapin de mes grands-parents et ensuite d'imaginer que ce lapin allait être tué, dépecé et cuit. Là, il y a un côté quand même très cruel que l'enfant n'est pas capable d'appréhender. Donc c'est vrai qu'aller visiter un élevage de poules ou un élevage de boucherie chez un enfant un peu sensible, un peu jeune, n'est peut-être pas la meilleure idée que vous ayez pour vos prochaines vacances. Mis à part ce petit détail humoristique, si vous passez par un animal que l'enfant n'a pas affectivement connu, n'a pas créé un lien de relation avec lui, ce sera plus facile de comprendre que cet animal n'est plus vivant, que cet animal est mort, que cet animal, on ne le reverra pas. On abordera tout à l'heure le cas où c'est votre animal de compagnie qui décède et où là, il peut y avoir à la fois de la surprise, à la fois de l'incompréhension et à la fois, évidemment, une colère, un déni, une impuissance, ce qui est bien normal. Avant de passer à l'animal, je voudrais revenir sur les mots qu'on choisit d'aborder avec nos élèves et nos enfants. Cette expérience-là, je l'ai eue par rapport à Kylian. Kylian était en grande section quand je l'ai eu. C'était un petit garçon super attachant, charmant, concentré, attentif. Et puis, du jour au lendemain, je vois qu'il se désintéresse des ateliers, qu'il a l'air ailleurs. On voyait qu'il était dans les nuages, on voyait qu'il était plus appliqué du tout. On avait des réunions régulières avec les parents. Et puis, la maman, j'avais un bon contact, j'avais eu la grande sœur et tout, ça se passait bien. Puis un jour, je lui demande ce qui se passe avec Kylian. Est-ce qu'il y a eu un changement à la maison? Parce que j'ai noté un changement en classe. Connaissez mon amour sur le triangle éducatif, de considérer que le bien-être de l'enfant en classe est aussi important que ce qu'il ressent à la maison pour essayer de créer une cohérence et un système d'attachement qui soit un peu congruent entre les parents, l'enseignant et l'enfant. Partant de ce principe, la maman me dit « Bah oui, écoutez, il s'est passé quelque chose de grave, on a envoyé son papa qui était malade au pays ». Et en fait, il est hospitalisé au pays et on pense qu'il ne va pas s'en sortir. Donc, on a juste dit à Kylian que son papa était parti en vacances. Donc, je prends l'information, j'essaye de garder le sérieux extérieur, l'impassibilité extérieure au maximum, parce qu'en moi, j'avais déjà compris le lien qui s'était créé dans « papa est parti en voyage ». Donc, pour Kylian, son père était en voyage au pays comme il le faisait habituellement. Donc ça, c'était pas nouveau. La différence, c'est qu'entre-temps, son état de santé s'était dégradé et son père était décédé au pays, donc à l'hôpital, sans avoir pu ni revenir, ni faire ses adieux, ni expliquer son état de santé à son fils. Donc Kylian avait 5 ans à ce moment-là. Quand Kylian a entendu des bribes de phrases à la maison, comme quoi les gens s'inquiétaient, mais le mot de mort, le mot de malade, le mot de très malade, le mot de ne reviendra jamais n'a pas été prononcé, n'a pas été dit, n'a pas été explicité et posé sur la table. Ce qui fait que pendant plus d'un mois, j'ai eu un petit garçon inquiet, j'ai eu un petit garçon rêveur, j'ai eu un petit garçon dans le doute qui ne savait pas ce qu'il se passait réellement. Il y avait une sorte de mystère et de secret de non-dit autour de la mort de son père, ce qui est quand même une figure hyper importante pour un petit garçon. Et les adultes qui étaient confrontés, eux, à leur deuil en cours, n'ont pas su trouver les mots concrets n'ont pas su trouver les mots pour poser devant Kylian ce qui s'était réellement passé. Je conçois tout à fait à quel point c'est difficile d'expliquer à son fils que son père est mort. Hein, si vous avez malheureusement vécu cette situation, je me relie de tout cœur à l'émotion intense et à l'impuissance de devoir porter le message à son enfant, de devoir expliquer à son enfant que la réalité a rattrapé l'idée de la famille concrète et vivante qu'on avait, que ce n'est plus le cas, que le changement est irrémédiable, irréversible, et qu'il ne reverra plus jamais son père en face. Néanmoins, pour la construction de l'identité de cet enfant, pour la construction de sa scolarité, pour la construction de ses relations, notamment de confiance aux mots qui sont posés, notamment sa relation de confiance aux énoncés qui sont dits autour de lui, à la crédibilité, je voulais aujourd'hui mettre en parallèle que quand on utilise un mot qui n'est pas le vrai mot, l'enfant part dans un imaginaire, dans un « il va revenir ». Il est déjà revenu quand il partait en voyage, donc il va revenir. Ce qui fait que quand je sondais de temps en temps au détour d'un album, j'ai ramené dans la classe des albums qui parlaient de ça, j'ai invité la maman à, elle, trouver un professionnel pour en parler, pour elle d'ailleurs apaiser d'abord ses propres flammes avant de pouvoir passer à l'explication en fait que son mari, enfin ils habitaient plus ensemble, mais que le père de Kylian était décédé. Elle se sentait pour l'instant incapable de donner ce message à Kylian parce qu'elle, elle traversait cette étape de manière très difficile. Et je ne remettrai jamais en cause le fait qu'on se sente incapable de parler de ce qu'on ressent, puisque c'est tout mon métier maintenant, d'expliciter ce qu'on ressent pour que l'impact de ce qu'on ressent contamine le moins possible l'état émotionnel de nos enfants, de nos conjoints, de nos proches. Maintenant, dans une situation extrême comme ça, il va y avoir une contamination, qu'on le veuille ou non. Il va y avoir, dans tous les cas, un impact entre vous, ce que vous ressentez sur la mort de cette personne, et ce que perçoit l'enfant de votre état émotionnel. Pourquoi ? Parce que notre enfant va nous observer et va voir qu'il y a un changement. Il ne va pas le comprendre puisqu'on n'arrive pas à le verbaliser. Donc il va s'imaginer que ce changement est peut-être dû à une attitude qu'il a eue, une action qu'il a eue, quelque chose de complètement annexe. Il risque de faire un biais d'attribution à l'état émotionnel désagréable, dramatique, de sa maman, alors que ça n'a rien à voir avec lui. Alors que le fait extérieur qui a créé cet état émotionnel de la maman, la mort du père de l'enfant, est complètement extérieur à ce que l'enfant vit, pense ou réfléchit ou agit. Et c'est ce lien qu'on peut couper en utilisant des vrais mots. Donc ça me paraissait vraiment important de le poser ici. Donc ce petit Kylian est resté à peu près pendant 3 semaines sans avoir plus d'explications que ça de la part de sa maman. J'ai encouragé la maman donc à se faire accompagner. Elle a été voir un professionnel. Je lui ai demandé si l'hôpital là-bas avait donné des informations médicales sur lesquelles elle pourrait s'appuyer, comme expliquer par exemple que son cœur s'était arrêté de battre, qu'il avait pu réussir à respirer. Ça, ce sont des choses factuelles médicales. L'enfant, très jeune, il peut comprendre que son genou saigne parce que son genou a frotté le sol en béton. Donc le lien de cause-conséquence, il peut être compréhensible par un enfant très jeune si on lui donne plusieurs occurrences, plusieurs itérations. À chaque fois que votre enfant tombe et qu'il saigne, il comprend que c'est parce que sa peau a frotté une surface dure. Et en grandissant, il ne pleurera plus pour la moindre égratignure de genou, parce qu'il aura compris les causes et les conséquences, et il pourra peut-être même anticiper la prévention pour éviter de saigner et de ressentir la douleur et tout ça. Là, ce mot de « le cœur s'est arrêté », « les poumons ne pouvaient plus respirer », la maladie a été plus forte que le corps, ce sont des phrases que vous allez pouvoir donner qui sont dures à prononcer parce qu'elles renvoient à notre impuissance face à la mort, une nouvelle fois. On ne peut pas contrôler le moment de la mort des gens qu'on aime, on ne peut pas contrôler le moment de la mort des animaux qu'on a vécu, hébergés pendant des années, ce n'est pas sous notre contrôle. Donc si on arrive à mettre de côté temporairement l'impuissance que ça arrive, la notion d'acceptation qui est tellement difficile à la fin des phases du deuil, si juste un tout petit instant, on arrive à se dire la personne est morte, l'animal est mort. Ça, c'est un fait. Et je trouve ça difficile hein, de l'expliciter avec vous comme étant un fait. Mais c'est un fait. La personne est morte. Donc, comment le rendre audible pour un enfant de 2, 4, 6 ans si à ce moment-là, vous, vous remettez en question le fait que c'est un fait? Si vous partez du principe que la personne est morte, l'animal est mort, on ne la reverra plus, son cœur a arrêté de battre, ses poumons ont arrêté de fonctionner, la maladie a été beaucoup plus forte que le corps n'a pas réussi à se battre plus fort. Tout ça, ce sont des faits. C'est dur à entendre, mais ça ne dépend pas de nous. On n'a pas la toute-puissance de réparer le cœur, de réparer les poumons, même s'il y a maintenant des chirurgiens, s'il y a des experts en neurosciences, en cerveau, le corps médical ne peut pas tout résoudre. Et pourquoi est-ce que c'est important de poser ces mots-là? C'est que les enfants, ils ont des côtés magiques. Ils pensent que quand on a une pensée magique, ça va arriver, qu'il suffit de faire une petite prière et que papa va revenir. Il suffit de faire un beau dessin et que le chien va revenir. Malheureusement, dans un esprit imaginaire d'enfant, c'est un mélange entre la réalité, le fantasme, l'illusion. C'est dans leur stade de développement. Tout comme le Père Noël, la petite souris, les lapins de Pâques, enfin, toutes ces figures traditionnelles un peu discutables, hein, mais en fait, coexistent avec ce qu'il comprend de réel et de factuel. Donc, dans le choix des mots que vous allez poser, dans le choix du descriptif que vous allez utiliser et dans la prévention que vous allez faire dans les petites choses du quotidien, comme je vous disais au tout début, sur les fleurs, sur les escargots, sur ben, la voisine à côté, eh ben, son mari était très malade. La voisine est triste, la voisine est habillée tout en noir, elle pleure souvent parce que son mari, son chéri, la personne avec qui elle vivait, était très malade. Alors, vous n'allez pas détailler toutes les façons de mourir qu'on va avoir, vous n'allez pas détailler non plus tous les symptômes qu'on a avant de mourir, parce que tout ça va dépendre de notre chemin de vie, de notre expérience et malheureusement des circonstances. Et je reviens à ce mot de circonstances. On ne contrôlera pas les circonstances de notre mort, on ne contrôlera pas les circonstances de la mort de nos enfants, on ne contrôlera pas les circonstances de la mort de nos parents. Alors pour l'instant, évidemment, je ne veux pas imaginer que mes parents meurent, je ne veux pas imaginer que mes enfants meurent, je ne veux pas imaginer que mon conjoint meurt. Mais si on est factuel, si on est juste réaliste, quelles que soient nos croyances ou nos religions, ça va arriver. C'est la seule chose dont on est sûr d'ailleurs dans notre vie. On est né, on va mourir. Après, ce qu'il arrive après la mort, je vous laisserai complètement décider de ce que vous voulez engager comme conversation avec votre enfant sur le fait qu'on va au ciel, sur le fait qu'on est enterré, sur le fait qu'on est dans l'urne d'incinération. Tout ça, vous pouvez très bien l'expliciter avec vos mots parce que ce sont vos croyances, vos valeurs et votre vision de la vie. Et l'enfant sera très content de comprendre comment vous, vous envisagez l'après, l'au-delà, la mort, parce que c'est votre système de croyances actuel et que ça lui fait un pilier d'identité, dont il se libérera peut-être plus tard. Ça aussi, on en parle dans l'épisode 60 sur l'identité de l'enfant. L'identité de l'enfant, elle se construit par rapport à ce qu'il comprend de ses parents, ce qu'il comprend de ses professeurs, ce qu'il comprend de ses meilleurs amis, de sa marraine, des gens autour de lui. Il va se construire un kaléidoscope de tout ce qui existe autour de lui. Et peut-être qu'un jour, il va s'en éloigner. Peut-être qu'un jour, il remettra en question vos croyances, votre religion ou pas, ça non plus, on ne pourra pas le contrôler, mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on sera confronté à la mort, probablement cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, que ce soit des petites morts ou que ce soit des grandes morts. Et pour un enfant très sensible, le simple fait que la poule de son poulailler meure peut déjà être un drame, parce que le lien d'attachement qu'il a construit avec cet animal peut être très fort. Parce qu'un enfant peut s'attacher aussi bien à quelqu'un d'inanimé comme son doudou, comme à quelqu'un de vivant, comme bah, le chat de la voisine, comme la poule du poulailler, comme le hérisson qui est dans le jardin de son grand-père. Notamment parce qu'il y a cet imaginaire, cette pensée magique, ce côté « ah ben l'animal me comprend, j'ai un lien fort avec lui, j'aime le lien de connexion que j'ai avec cet animal, j'ai l'impression qu'il me connaît, j'ai l'impression de pouvoir me confier ». Vous voyez que c'est le lien qui s'est créé avec un animal autour de lui, que ce soit son animal ou l'animal de la famille ou l'animal de la belle-famille ou des grands-parents, c'est un lien qu'on ne peut pas, nous, complètement comprendre. L'enfant va y poser son imaginaire, sa connexion, peut-être sa confiance, peut-être aussi son intimité, parce qu'il peut y arriver qu'à son animal, on lui confie des choses qu'on n'a pas confiées à des êtres humains. Et la perte d'un animal, du coup, emporte avec lui tous les secrets qui se sont dits, toute la connexion qui ne pourra pas revenir de manière factuelle. Voilà plusieurs éléments que je voulais poser aujourd'hui avec vous sur le fait d'annoncer la mort avec des vrais mots. Il ne reviendra pas, son corps s'est arrêté. On va maintenant effectuer des rituels, on va effectuer des gestes autour de cette personne, de cet animal. Si tu veux en savoir plus, tu peux me poser des questions. Si tu veux en parler, je serai là. Et bien sûr, je vais t'accompagner dans ta tristesse, dans ta colère, dans ta sensation que c'est pas juste, dans ton impuissance. Mais tout ça, on est un peu obligé de le faire en amont, nous, en tant que parents. Ça veut dire que je vous propose de prendre une heure ou deux, quand vous serez prêts, pour revisiter cette question-là, pour accepter l'idée qu'autour de vous, quelqu'un va malheureusement décéder, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Et que c'est un fait, c'est triste, ça envoie une étincelle d'impuissance dans notre cheminée des émotions, ça envoie et ça alimente des flammes de colère, de frustration, de regret, hein, de regret de ne pas avoir dit plus tôt, de regret de ne pas avoir profité, de regret de ne pas avoir appelé avant que la personne meure. Tout ça, ce sont des choses qu'on a pu penser, qu'on a pu ressentir. On se serait dit « Ah, si j'avais été la voir plus tôt, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, on aurait pu éclaircir tel ou tel point, il aurait pu me dire… » On ne saura jamais, en fait. Donc on peut refaire le match, on peut revisiter l'expérience passée, on peut envisager qu'il y ait pu y avoir un autre scénario, mais en réalité ça ne se fera pas. Donc après, si vous voulez, on pourra évoquer tous les rites et tous les rituels qu'on peut créer, les cérémonies qu'on peut effectuer aussi autour de la mort de quelqu'un de proche de l'enfant. Mais je voulais vraiment poser ça, que pour l'incarner et le modéliser auprès de nos enfants, eh bien nous on doit plonger dans cette question. On doit sauter dans cette bassine de comment je vis mon rapport à la mort? Comment je suis au clair avec le fait que moi aussi je vais mourir? Et je vais peut-être mourir avant d'avoir pu transmettre tout ce que je voulais. Je vais peut-être mourir avant d'avoir vécu ce grand projet avec mon mari, avant d'avoir fait, le mariage de ma première fille. On ne sait pas en fait, il y a vraiment une impermanence. Et vous pouvez vous dire que je parle de ça de manière très détachée. J'essaye de rester détachée, j'essaye de ne pas me connecter à l'émotion que j'ai eue quand j'ai perdu mon grand-père, quand j'ai perdu ma grand-mère, parce que ça ne va pas me rendre service. Mais ce qui m'a le plus aidée, et je pense que vous pourrez l'envisager aussi si vous avez vécu ce genre de choses, c'est si vous avez vécu un moment où vous vous êtes retrouvé face à la mort vous-même, ou si vous avez cru y passer vous-même, vous aurez d'autant plus de facilité à vous dire « Bon, ben maintenant que j'ai échappé à ce moment-là, que j'ai survécu à ce moment-là, que ce soit une maladie, que ce soit un traumatisme, que ce soit… » J'en ai parlé déjà sur Clubhouse, donc je vais juste le réévoquer un tout petit peu ici. Dans la ville où j'habitais avant, qui a un gros taux de criminalité, de drogue, de trafic, je me suis retrouvée un jour dans une pharmacie où on a été braqué. Donc le gars est entré avec son flingue, avec son masque et sa cagoule, et donc il nous a tranquillement braqué… Donc, je ne vous cache pas que j'ai un souvenir, une expérience de ce moment-là qui a permis que je me rapproche de la valeur de ma vie, de ce que je voulais transmettre à mes enfants, de ce que j'attendais encore de mes prochaines années si je ressortais de cette pharmacie vivante ou non, etc. Ça a été le premier étage du bus, ça a été le premier moment où j'ai vraiment ressenti que la vie est peu de choses, qu'on est là pour une durée déterminée qu'on ne connaît pas. On ne nous a pas donné le contrat. On n'a pas le contrat noir sur blanc de quand est-ce qu'on allait mourir. Mais ce jour-là, je me suis dit, « Ok, ta fille a 7 ans, 7 ans, c'est trop jeune, quoi. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui, j'ai envie de l'accompagner, j'ai envie de créer d'autres choses dans ma vie, j'ai envie de deuiller certaines choses. Bizarrement, ce jour-là où j'ai vu le gars avec son flingue sur nous, je me suis dit, j'ai envie de vivre d'autres choses, j'ai envie de reconstruire d'autres choses, de me relancer dans un couple et tout ça. Ce premier étage, il nous met face à la mort. Vous avez peut-être vécu un souvenir en parallèle avec ça. Et ce face-à-face avec la mort, je l'ai revécu à ma deuxième grossesse. J'en ai aussi parlé dans l'épisode sur la fatigue maternelle, dans le 73, d'avoir vécu une hyperémèse gravidique. Donc l'hyperémèse gravidique, c'est quand on vomit tout ce qu'on mange. On se vide en fait entièrement de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on... on ne garde rien. M'étant renseignée un petit peu sur les forums, je me suis dit, bon, je suis pas toute seule. Et d'avoir vécu ça en parallèle de millions de personnes, de millions de femmes, que c'est une maladie qui n'est pas vraiment diagnostiquée, que c'est une pathologie qui n'est pas prise en compte par le corps médical. Donc il y a ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'injustice, de colère, de frustration, qui nous met aussi face à, bon, ben maintenant que j'ai ça, je fais quoi? Est-ce que tranquillement, je continue à vomir, à cracher du sang et à me dire, je vais mourir la tête au-dessus de mes toilettes? Désolée encore une fois pour l'image, mais c'est un moment fondateur en fait pour moi, d'avoir fait face à la mort en me disant, si je ne fais rien, je vais mourir au-dessus de cette cuvette de toilette à vomir du sang. Ces moments où on a des prises de conscience, si vous avez eu des moments dans votre vie où vous avez fait face à un attentat, à un braquage, à un accident d'avion, à un accident de train, vous avez vu à quel point la mort ne tient qu'à un fil, peut s'arrêter du jour au lendemain. Si malheureusement vous deuiliez quelqu'un de proche autour de vous, vous le savez aussi. Et ces prises de conscience, parfois, elles sont atténuées par le quotidien, la routine. On repasse à autre chose. Un peu comme le confinement nous avait mis ça en face des yeux, qu'à chaque instant, on pouvait contracter cette maladie, ce virus, décéder en quelques heures d'insuffisance respiratoire. Les journalistes qui posaient ces mots étaient factuels au bout d'un moment. Je pense que vous vous souvenez de ça. On comptait chaque soir le nombre de morts, le nombre de vaccinés. Enfin, c'était des chiffres qui n'avaient plus l'émotion et le retentissement émotionnel qui apparaissait. Se détacher de l'idée de mort est difficile. Je pense que c'est une étape importante quand on est parent pour être bien au clair, nous, avec ce qu'on croit, avec ce qu'on peut ou pas contrôler. Je ne pourrais pas contrôler la mort de mes enfants. Je ne pourrais pas contrôler ma propre mort, ni celle de mon conjoint. Et quand on voit ça de manière factuelle, on peut se dire, maintenant, qu'est-ce que j'en tire de cette information? Ça veut dire que je peux vivre ma vie avec intensité, je peux vivre ma vie en ayant moins peur de décevoir les autres, parce que ma vie, elle est précieuse. Et quand je me suis remise de cette grossesse, j'ai remis très clairement le focus sur mes besoins, sur mes envies, et beaucoup moins sur ce que les gens pensaient de ma vie, ce que les gens pensaient de mon métier, de ma fille, de mon éducation, de ma parentalité. Donc vous voyez que ça peut boucler avec plein d'autres thèmes que j'aborde régulièrement, c'est que si on admet qu'on va mourir un jour, ben on arrête de perdre du temps à faire plaisir, on arrête de perdre du temps à des projets, à des valeurs qui ne sont pas importantes et essentielles dans notre vie actuelle, dans notre vie présente. Vous avez peut-être déjà fait ce switch à une ou deux ou trois occasions. Je vous invite à le refaire de temps en temps en vous disant, puisque je n'ai pas le contrôle de tout, puisque ma vie est dans l'impermanence continuelle. Oui, on peut ruminer que c'est pas juste. Oui, on aurait pu passer encore 2 années avec notre chien. Oui, on aurait voulu partir en voyage avec notre grand-mère avant qu'elle décède. Mais ça, ce sont des regrets qui ne sont pas fertiles en fait. Ce sont des regrets qu'on peut reformuler, requalifier en disant quelle belle connexion j'ai vécue avec mon animal. Quels sont tous les souvenirs que j'ai avec ma grand-mère? Et d'en faire quelque chose de constructif, d'en faire quelque chose de chaud, de réconfortant, d'en faire une braise utile, d'en faire une braise qui fait du bien au quotidien. Et j'ai eu du mal la première fois que j'ai été confrontée à ça, parce que pour mon grand-père, je venais d'avoir ma grande, donc ça a été vraiment très difficile d'accepter que mon grand-père meure alors qu'il n'avait que connu ma fille depuis 3 mois à peu près, dans sa période de lucidité avant qu'il meure. Et j'ai trouvé ça injuste, j'ai trouvé ça cruel. Je me suis dit, ils auraient pu créer d'autres souvenirs. Et après, j'ai créé un rituel autour de ça. J'ai créé un album avec tous les souvenirs que j'avais avec mon grand-père en me disant, ben, je continuerai à parler de mon grand-père à ma fille. Vous pouvez créer une cérémonie autour des photos que vous avez avec votre animal, tous de quoi tu te rappelles avec lui, quels sont tes meilleurs souvenirs, de faire un objet extérieur qui valide toute l'expérience de vie qu'on a eue, l'intimité qu'on a eue avec lui, la connexion, tout ça existe en nous. Ça fait cliché hein, de dire ça, hein. Mais on a toutes ces personnes qui nous ont quittés existent encore en partie en nous. Quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos religions, les souvenirs qu'on a eus avec elles ne meurent pas. Ils peuvent être réinvestis, ils peuvent être reconstitués, ils peuvent être mutualisés. Parce que ma deuxième fille n'aura jamais connu ma grand-mère, en fait. Ma deuxième fille ne sait pas qui sont ces gens sur le cube photo qui est au-dessus de l'armoire de salle de bain. Donc, je peux transmettre l'information. Je peux ritualiser le fait que mon grand-père, je l'aimais beaucoup. Il y a une photo de ma grand-mère qui est sur mon tableau de visualisation. Quand Siana m'avait vu faire mon tableau de visualisation, qui est un autre épisode qui est dans le 90, si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, elle m'a dit « Tiens, c'est qui ?» Donc, elle voyait que c'était moi, jeune, parce que j'avais une vingtaine d'années sur la photo avec ma grand-mère. Et elle m'a dit « C'est qui ?» Donc, j'ai dit « Bah, c'était ma grand-mère, je l'aimais beaucoup. J'ai plein de bons souvenirs avec elle. Maintenant, elle est morte, elle était très vieille. C'était la maman de Papinou. » De resituer dans la hiérarchie, dans la chronologie familiale, qui sont les gens qui ont compté, qui sont les gens qui sont partis, qui sont les gens qui restent. Et on pourra refaire un autre focus plus tard sur la maladie par surprise, parce que malheureusement, on ne meurt pas que de vieillesse, on peut aussi mourir par accident et tout ça. Mais de poser le maximum de mots en disant quels sont les bons souvenirs, quelles sont les images capitalisées, les photos capitalisées que tu peux faire revivre malgré la séparation, malgré le côté irréversible de la mort et malgré le fait que en vrai, tu ne pourras pas la revoir, tu ne pourras pas construire du nouveau. Par contre, tu peux t'alimenter en souvenir, en gratitude, en reconnaissance. Donc, tu peux faire exister cette flamme de relation et d'amour que tu as avec cette personne, mais en toi. Et ça, tu ne pourras plus le faire à l'extérieur. Bon, bien sûr, on peut échanger autour de cette personne si on a été plusieurs à la connaître, mais tu ne pourras pas créer de la nouveauté avec cette personne-là. Construire sur des gens qu'on croit encore présents et pouvant revenir et construire en disant « je ne le reverrai jamais », c'est pas du tout la même construction sur l'attachement, sur le système d'attachement et sur le fait de pouvoir faire confiance à la parole donnée, à croire aussi que les adultes sont compétents et capables de poser des mots et d'être un renfort. C'est vrai que ça pourrait, je ne vais pas tirer ça comme conclusion de toutes les situations où on n'arrive pas à dire à nos enfants la réalité, mais ça pourrait induire que la parole donnée des parents n'est pas fiable, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Ça veut dire quand on ne dit pas à un enfant la vérité, la réalité, même si elle peut parfois être subjective, quand on ne donne pas une première piste en disant « il s'est passé quelque chose de grave avec ton père », si on arrive déjà juste à dire ça, ça prépare les deux personnes à la suite. C'est comme si on anticipait le « je rentre à l'hôpital parce que là, je saigne », c'est un premier indice. Si ensuite la femme dit « je saignais beaucoup, en fait, j'attendais un bébé, mais le bébé n'est pas assez fort pour rester », le bébé n'est plus là et il y a beaucoup de témoignages en ce sens parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur la parentalité, vous vous doutez, et les témoignages de fausse couche, est-ce qu'on doit dire à l'aîné qu'il y avait un bébé dans le ventre, est-ce qu'on doit dire à l'aîné que le bébé n'est pas resté, tout ça en fait les enfants le sentent déjà, donc on pourrait croire qu'ils ne comprennent pas, mais sans le comprendre ils le sentent. Donc si vous vous savez enceinte, si vous savez que vous avez fait une fausse couche, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il y a une phrase à poser quelque part. Maman pensait qu'elle avait un bébé dans le ventre, qui allait bien, qui était en bonne santé. Et en fait, non. Il avait une petite maladie. Il n'est plus là. Donc, je suis allée à l'hôpital. Je saignais. Poser des mots qui soient facilement compréhensibles et qui font partie de l'acceptation. Malheureusement, c'est le cas quand même d'une grande partie de la génération d'avant qui n'a pas pu voir non plus l'ampleur de l'impact émotionnel de leurs non-dits, de leurs, j'ai pas envie de dire mensonges, mais de leurs omissions concernant des sujets aussi importants, que ce soit la mort, que ce soit les secrets de famille, que ce soit les gens qui soient morts par suicide, qu'on a maquillé pour qu'ils soient quand même enterrés. Moi, j'ai ce genre de choses dans ma famille qui m'ont surprise quand j'ai découvert des choses 10 ou 15 ans après. On cachait des vérités parce qu'on n'était pas au clair sur les conséquences religieuses. On cachait des vérités parce qu'on avait peur que ça se sache. Du qu'en dira-t-on, des voisins, des familles. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont puantes, ce sont des choses qui sont malsaines et qui restent dans la lignée, qui restent dans l'héritage en fait émotionnel des enfants d'après. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout déterrer au fur et à mesure. Là, vous prenez un week-end et vous donnez tous les secrets de famille de tout le monde. Ce n'est pas le but, hein. Mais de voir que quand on tait quelque chose, ça peut ressortir sur des conséquences qu'on n'a pas imaginées. Et que quand on exprime quelque chose, non seulement nous, ça nous libère d'un gardiennage de secrets qui est très pesant, mais qu'en plus, ça peut permettre à l'enfant de se désolidariser de la conséquence émotionnelle de cette action. L'enfant ne sera jamais responsable de la mort de son parent. Mais là, c'est comme si on te tenait un petit peu responsable du non-dit et du secret pendant des années. Je trouve ça à la fois cruel et à la fois je peux comprendre qu'ils étaient en incapacité de le faire et qu'on ne te l'a pas dit avant parce qu'on ne savait pas comment faire. C'est très très triste. Et en même temps, ça peut aussi servir pour ceux qui vont le vivre, qui l'ont vécu, à deuiller dans les deux sens. Ça veut dire, nos parents n'ont pas toujours été capables de nous transmettre des informations précises et claires, ne pensant pas que ça aurait un impact sur notre construction émotionnelle de confiance. Et ça peut être de confiance vers des adultes, ça peut être de confiance vers un partenaire de vie, ça peut être de confiance dans notre capacité à élever des enfants à notre tour ou à dire notre vérité aux gens. Parce que dans ce cas-là, c'est se couper de ses émotions aussi. Il y a tout un épisode, coucou Sandra, où on avait fait une interview autour de se couper des émotions. Oui, c'est un mode de survie, c'est un mode de fonctionnement qui nous a permis d'avancer. C'est une façon de se dissocier de quelque chose qui est trop lourd pour nous sur le moment présent. Mais est-ce qu'on peut le réparer plus tard? Sans doute. Mais est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Sans doute aussi. On ne va pas être la mère qui évite tous les traumas à notre enfant. Je vais le redire ici, tous les professionnels de l'accompagnement vont vous dire, oui, nos actions vont avoir des conséquences sur nos enfants. Les bonnes, les mauvaises, si on les aide trop, si on les surprotège trop, ça a aussi des conséquences négatives pour leur autonomie et leur construction. Mais dans la mesure du possible, si on arrive à être assez factuel sur ce qui se passe au quotidien, sur ce qu'on vit au quotidien, sur ce qu'on ressent au quotidien, ça nous permet de le modéliser et ça nous permet de l'incarner auprès de nos enfants pour qu'il n'y ait pas cette incompréhension, cette impuissance et surtout ce doute permanent de est-ce qu'on me dit la vérité? Il part d'un besoin d'authenticité, il part d'un besoin d'honnêteté, il part d'un besoin de confiance, qui sont des besoins qu'on a tous sur nos rayures d'arc-en-ciel. On a un besoin d'intimité avec des gens, on a un besoin de confiance. Et on l'attendrait de nos parents, on l'attendrait de notre mère. Parfois ça se fait, parfois ça ne se fait pas. À nous, maintenant, malheureusement, de rediriger notre envie de confiance, d'authenticité et d'honnêteté vers des personnes qui seraient peut-être plus à même de le faire, parce qu'elles ont elles-mêmes une visibilité sur leurs émotions, projets, espoirs, rêves, valeurs. Hein, choisissez les mots qui résonnent le plus aujourd'hui. Mais on a pu souffrir pendant plusieurs années de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été verbalisées, qui n'ont pas été explicitées, et s'en sortir quand même. Parce que nous, on va faire le travail. On va être la génération qui avance, on va être la génération qui va avoir des thérapeutes, on va être la génération qui essaye de s'en sortir et de casser la chaîne générationnelle émotionnelle. Et on est beaucoup dans cette génération à essayer de faire ça. On est beaucoup à essayer d'avancer et de faire notre part du problème. Et nos enfants peut-être continueront, on ne sait pas, on verra bien. Mais nous, on aura essayé de casser un tout petit peu cette chaîne. Le fait que nos parents auraient pu faire autrement, et ça nous laisse dans une situation d'impuissance et de déresponsabilisation qu'on peut aller creuser. Parce que si on se base uniquement sur le fait qu'ils auraient pu faire mieux ou qu'ils auraient pu faire autrement, on n'avance pas. Hein, vous connaissez la différence entre le coaching et la thérapie. C'est qu'en thérapie, on va aller voir, revisiter les causes et tout ça. En coaching, on va plutôt essayer d'avancer à partir de ce qu'on a déjà compris et à partir de notre présent. Et les deux sont complémentaires en ce sens-là. C'est qu'on ne va pas pouvoir rattraper tout ce qu'on a vécu de traumatisant avec nos enfants, avec nos grands-parents, avec nos arrière-grands-parents, avec notre lignée, avec ce qui nous a été dit ou pas dit. Par contre, on peut essayer de faire quelque chose de nouveau à partir de maintenant, de créer quelque chose qui soit pour nous plus cohérent et plus consciencieux sur notre valeur d'authenticité, sur notre valeur d'honnêteté, sur notre valeur de confiance. Que ça ait été impacté, c'est logique et légitime. C'est un effet, c'est une conséquence. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on co-construit avec ce qu'on a compris de nos connaissances, avec notre cheminement intérieur, avec ce qu'on a réalisé? Et il ne s'agit pas de pardonner aux gens qui n'ont pas su faire mieux. Il s'agit, nous, de prendre en considération qu'à leur époque, clairement, on n'avait pas tous ces outils-là. À leur époque, clairement, on n'imaginait pas que la psyché de l'enfant se développe très tôt et qu'il garde des... Alors, j'aime pas le mot séquelles, qu'il garde des conséquences de plein de choses qu'il allait vivre dans sa petite enfance. Mais voilà, les recherches le prouvent jour après jour. Les apports en neurosciences sur la plasticité du cerveau, sur le développement du cortisol, tout ça, ça fait du chemin scientifique. Et quand on lit maintenant les articles sur la construction identitaire de l'enfant, sur le système d'attachement de l'enfant, on voit que les impacts étaient là dès le départ, que la confiance s'est installée dès le départ et que nous, on a fait comme on a pu avec les bouts de ficelle de notre enfance. Donc oui, on a sûrement eu des enfances où il y a eu des trous dans la raquette. Mais maintenant, comment est-ce qu'on tourne autour de ces trous et comment est-ce qu'on construit à la fois un couple, à la fois une relation parentale et à la fois une profession, un métier qui correspond en tout point à ce qu'on voudrait maintenant, au lieu d'aller ressasser que c'est à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance et tout ça. Et je me relis, hein, si c'est quelque chose que vous vivez, parce que j'en parlais avec les clientes l'année dernière dans Emotizen, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à traverser moi aussi. Parce que je rendais responsable mes parents de toute ma frustration et mon impuissance et tout ça. À ne pas m'avoir dit ça, à ne pas m'avoir pris en compte mes émotions, à ne pas m'avoir appris que mes émotions étaient légitimes, je leur reportais la responsabilité sur eux, alors que je peux tout à fait reporter la responsabilité sur moi. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? En quoi c'est maintenant mon chemin de vie? D'avoir vécu dans une impassibilité émotionnelle, c'est maintenant là-dessus que je me dirige et que je fonctionne. C'est drôle comme renversement de situation. Pareil d'avoir voulu être enseignante. Donc je crois que ça a été fondateur, malheureusement, nos mauvaises expériences de vie avec nos parents. De la même façon que quand on a perdu un être cher de maladie, quand on a perdu un être cher par surprise aussi. Je vous avais parlé dans une room d'un ami salsero avec qui on avait fait des scènes, des congrès salsa et tout ça, qui est mort sur la piste de danse à 43 ans. D'une crise cardiaque, cet homme, il avait tout pour lui. On se dit, waouh, 43 ans, il était jeune, il avait encore toute sa vie devant lui, enfin, il avait écrit un livre et tout ça. C'est fondateur de se rendre compte à quel point les gens autour de nous ont un chemin. Nous, on ne peut pas contrôler le chemin des autres, on peut juste voir qu'est-ce qu'on veut faire sur notre chemin à nous. En quoi la mort de cet ami a changé? Ben, je me suis dit, peut-être que je me perds dans tel ou tel projet, peut-être que je devrais me concentrer. Ce sont des choses qu'on peut comprendre sur deux ou trois domaines de vie, ponctuellement. Quand la vie ramène quelqu'un, quand la mort prend quelqu'un, on peut se poser des questions sur le sens de ce qu'on vit actuellement au présent. De toute façon, je pense que de notre vivant, on n'aura pas résolu tous nos problèmes non plus, hein. J'aime faire l'image que j'allège la tâche de mes filles en ayant écrémé déjà une partie de ce que j'ai vécu moi. Et je ne pense pas arriver au bout de ma vie en ayant tout résolu non plus. Je pense que j'allège vraiment leur charge à elles. Moi, j'ai eu l'impression que le boulet était plus gros que moi quand j'ai commencé sur ce domaine des émotions et des besoins. Petit à petit, je me rends compte que bah, le boulet, je vais pas l'absorber en entier, mais que je vais le comprendre, je vais le légitimer, je vais en faire mon parti. Je vais voir aussi tout ce que ça m'a apporté dans mes choix de carrière, dans mes choix d'associatif aussi, dans mes choix de couple. C'est grâce à ça que j'ai fait des choix différents. C'est grâce à cette vision de l'émotion et à cette vision de la parentalité que je m'oriente au présent. Le fait que nos parents n'aient pas pu nous donner des outils sur la mort, n'aient pas pu nous donner des outils sur le sens de la vie, sur l'importance des émotions, sur l'importance de créer ces projets et ces valeurs à partir des besoins singuliers qu'on avait, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas ces outils-là. Donc c'est à nous maintenant, dans notre présent, de voir quel rapport on a avec la mort, quel rapport on a avec le temps qui passe. Est-ce qu'on est au clair sur tout ce qu'on a déjà construit et tout ce qui nous reste à construire? Qu'est-ce qu'on attend pour construire tout ça? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Tout est déjà donné en fait. Depuis que vous vous êtes levé, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que ça porte vos valeurs de vie vraiment intérieures? Est-ce que ça porte des choses qui font pas sens? Et dans auquel cas, ce sera peut-être le moment d'écrémer. Mais cette confrontation avec la mort, je la trouve assez fédératrice pour s'orienter maintenant dans le présent. D'avoir perdu mon grand-père, d'avoir perdu ma grand-mère, d'avoir perdu cet ami de la salsa, d'avoir perdu d'autres personnes autour de moi, me remet le focus constamment sur et moi, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi à ma mort? Qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi quand je ne serai plus là? Qu'est-ce que j'ai laissé comme trace? qu'est-ce que j'ai laissé comme idée? Alors parfois, j'ai des mamans qui me disent, qu'est-ce que j'ai laissé comme photo? Parce qu'on n'est pas sur beaucoup de photos quand on est maman. Donc voilà, ça peut être trivial, mais qu'est-ce qu'on a constitué au quotidien pour montrer qu'on avait quelque chose à apporter dans ce monde, qu'on va laisser une trace dans ce monde aussi, à notre tour. Évidemment, hein, quand on se marie, il y a des vœux, il y a des phrases, hein, qui sont données, qui sont énoncées, maintenant qui ne présupposent pas de l'ampleur des conséquences émotionnelles si un jour on perdait notre partenaire de vie, si un jour on perdait notre enfant. En fait, la peur de perdre n'empêchera pas ce qui arrivera. Ça paraît vraiment cliché, hein, je sais, des fois j'enfonce des portes ouvertes, que ce soit dans les rooms ou dans les podcasts, mais j'ai besoin de le dire encore aujourd'hui. Ça veut dire on peut avoir peur de perdre notre mari, on peut avoir peur de perdre notre chien, on peut avoir peur de perdre notre enfant, ça n'empêchera pas la réalité d'arriver. Vivons, vivons vraiment ce qui nous tient à cœur. Et pour savoir ce qui nous tient à cœur, c'est de quoi je vibre là en ce moment, quel est mon projet principal? Qu'est-ce que je veux prioriser dans ma vie? À quoi j'accorde mon temps? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce que c'est mon couple? Est-ce que c'est mon business? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et qui ne va pas repousser la mort, mais qui va, en attendant la mort, remplir ma vie? Vivons, vivons vraiment ce qui nous tient à cœur. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!